Il est 10h sur France Culture, l'heure de retrouver les nouveaux chemins de la connaissance avec vous, Raphaël Antoven, bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? Réalisé par François Connac avec Fabien Eliès aujourd'hui à la technique et diffusé tous les jours du lundi au vendredi de 10h à 11h. Les nouveaux chemins de la connaissance sont préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Géraldine Mosna-Savoie, Jeanne-Marie Roux et Adèle Van Rett. Adèle, qui à 10h50 recevra Baptiste Giacomino pour apprendre à philosopher avec Alain. Suite et milieu, ce mercredi, sans bafouiller, d'une semaine sur l'islam dans les nouveaux chemins de la connaissance. Après Leïli Anvar, venue lundi vous parler de la place des femmes dans l'islam. Marwan Rached, venue hier vous parler du bel islam hélène. Avant Makram Abbès, qui fera demain pour vous une histoire des rapports entre l'islam et la démocratie. Et Abdelwahab Medeb, qui vendredi montrera comment on peut lire le Coran. C'est aujourd'hui Mahmoud Hussein qui est l'invité des nouveaux chemins de la connaissance. Je devrais plutôt dire qui sont les invités des nouveaux chemins de la connaissance, puisque Mahmoud Hussein est le pseudonyme de quatre mains, celle d'Adel Rifat et Bagatelle Nadi, à qui l'on doit entre autres chez Grasset l'édition d'Al-Sira ou la vie du prophète Mahomet racontée par ses compagnons. Il avait le front haut, la joue impériale, le sourcil chauve, l'œil profond et diligent, le cou pareil au col d'une amphore d'argent, l'air d'un Noé qui sait le secret du déluge. Si des hommes venaient le consulter, ce juge laissait l'un affirmer, l'autre rire et nier, écouter en silence et parler le dernier. Sa bouche était toujours en train d'une prière. Il mangeait peu, serrant sur son ventre une pierre. Il s'occupait lui-même à traire ses brebis. Il s'asseyait à terre et cousait ses habits. Il jeûnait plus longtemps qu'autrui les jours de jeûne, quoiqu'il perdît sa force et qu'il ne fût plus jeune. « Je suis la force, enfant. Jésus fut la douceur. Le soleil a toujours l'aube pour précurseur. Jésus m'a précédé, mais il n'est pas la cause. Il est né d'une vierge aspirant une rose. » Bonjour Mahmoud Hussein, bonjour. Ah, bonjour à tous les deux. On va parler de la vie du prophète avec vous. Le prophète de l'islam raconté par ses compagnons, c'est sous votre direction chez Grasset en deux volumes. C'est passionnant. C'est vraiment un livre passionnant dont on ne se lasse pas. Avant cela, évoquons un tout petit peu ces quelques vers de Victor Hugo dans L'an neuf de l'Égir, dans La légende des siècles. Que vous inspire ce portrait du prophète par un autre prophète, Victor Hugo, Adèle Rifat?
Une raison de plus pour adorer Victor Hugo.
Une raison de plus.
Il ne faut pas utiliser le mot adorer ici.
Ça, c'est un commentaire de Bagatelle Nadi. Adèle Rifat, allez-y.
Non, nous sommes vraiment sur les hauteurs. Et c'est peut-être l'occasion, on ne le fait jamais depuis qu'on parle du prophète, et ça fait déjà longtemps, l'occasion de s'arrêter une minute sur la prodigieuse trajectoire du prophète. On en parle, on dit voilà ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, etc. Mais est-ce qu'on se rend compte du véritable miracle qu'il a accompli? Il suffit de se souvenir qu'il est né dans une ville et dans une région où les gens de tout temps se battaient, de tribu à tribu, de clan à clan, de famille à famille, où les maigres ressources étaient disputées avec des guerres sans fin. Il naît dans une société de ce type. Jusqu'à l'âge de 40 ans, c'est un contemplatif. Il médite, qui est loin des gens, quoique curieux intellectuellement. Et puis, à l'âge de 40 ans, il reçoit la révélation. Pendant 12 ans, il essaye de parler de ce message qu'il reçoit comme venant de Dieu. Il finit par convaincre 60 ou 70 personnes autour de lui. Ils doivent quitter la ville. Il se retrouve à Médine, enfin, ça s'appelait Yathrib à l'époque, pour 10 ans. En 10 ans, il bouleverse toutes les données de la situation mondiale.
L'ensemble faisant 62 ans. Rappelons-le, le prophète a vécu 62 ans. Il est né en 570, il est mort en 632. Et une trajectoire donc étonnante, sublime en un sens, et également profondément humaine, avec des vicissitudes, des turpitudes, des faiblesses, et également des calculs. C'était aussi un fin politique, Bagat el-Nadi.
Oui, c'était un homme politique. Mais je voudrais dire quelques mots à propos de Victor Hugo.
Qui était un fin politique aussi.
Oui, et je dis qu'en écoutant ce qu'il a dit à propos de Mohammed, on se souvient aussi de certaines choses que les autres, comme Voltaire et les autres, ont dit à propos de Mohammed. Et on constate que pendant le 18e siècle, les gens parlaient de Mohammed d'une autre manière. C'était les Européens, avec beaucoup de respect et quelquefois même avec beaucoup d'admiration et d'amour. Aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, 21e siècle, on entend un autre langage. C'est regrettable.
Mais pardonnez-moi, vous mentionnez Victor Hugo, vous mentionnez également Voltaire. J'ai le souvenir que Voltaire était quand même moins admiratif que Victor Hugo, même si sa pièce, Le fanatisme ou Mahomet, pièce d'ailleurs qui aujourd'hui connaît des difficultés pour être représentée, même si cette pièce visait en réalité, au dire de Voltaire d'ailleurs, l'institution catholique. Il se servait de Mahomet comme le prête-nom de son adversaire véritable. Mais enfin, tout de même, on va entendre quelques vers de Mahomet ou Le fanatisme, donc la pièce de Voltaire, pour quand même prendre la mesure de l'écart entre ce que Voltaire a pu en dire et ce que Victor Hugo en dira plus tard. Bagat el-Nadi, Adel Rifat, juste après, vous reprendrez la parole, écoutez.
Vois quel est Mahomet. Nous sommes seuls. Écoute, je suis ambitieux. Tout homme l'est sans doute. Mais jamais roi, pontife ou chef ou citoyen ne conçut un projet aussi grand que le mien. Chaque peuple à son tour a brillé sur la terre, par les lois, par les arts et surtout par la guerre. Le temps de l'Arabie est à la fin venu. Ce peuple généreux, trop longtemps inconnu, laissait dans ses déserts ensevelir sa gloire. Voici les jours nouveaux marqués pour la victoire. Vois du nord au midi l'univers désolé, la Perse encore sanglante et son trône ébranlé, l'Inde esclave et timide et l'Égypte abaissée, des murs de Constantin la splendeur éclipsée. Vois l'Empire romain tombant de toutes parts, ce grand corps déchiré, dont les membres épars languissent, dispersés sans honneur et sans vie. Sur ces débris du monde, élevons l'Arabie. Il faut un nouveau culte, il faut de nouveaux fers, il faut un nouveau Dieu pour l'aveugle univers.
Voilà donc tes desseins, c'est donc toi dont l'audace de la terre à ton gré prétend changer la face. Tu veux, en apportant le carnage et l'effroi, commander aux humains de penser comme toi. Tu ravages le monde et tu prétends l'instruire. Adel Rifat.
Oui, non, mais de toute façon, là c'est plus ambigu que terriblement hostile. Et par ailleurs, Voltaire a eu des mots beaucoup plus heureux et beaucoup plus justes dans des textes qui ne sont pas cette pièce. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que même à travers la méconnaissance ou même certains préjugés, on ne peut pas s'empêcher d'admirer la trajectoire, d'admirer cette espèce de parcours incroyable, tellement improbable, que, paradoxalement, il est plus facile d'expliquer quand on accepte l'idée que c'est Dieu qui l'a guidé. Mais en disant, faire ce qu'il a fait, se transformer lui-même. Parce qu'il y a une évolution du personnage qui est très intéressante à suivre. Et ce contemplatif devient homme d'action. C'est un sage, mais c'est un homme qui s'est décidé en une seconde. Il est d'une bravoure exceptionnelle. Il engage les gens autour de lui. Il sait faire la guerre, mais il sait aussi l'arrêter. Il préfère ne pas la faire, mais il la fait quand il le faut. C'est prodigieux.
C'est prodigieux. Bagat El-Nadi, vous parliez de Victor Hugo et puis de Voltaire. Dans les vers de Voltaire, effectivement, Voltaire lui-même disait « Ma pièce représente, sous le nom de Mahomet, le prieur des Jacobins, mettant le poignard à la main de Jacques Clément. » En d'autres termes, celui qu'il vise n'est pas vraiment celui qu'il désigne à première vue. Voltaire, dans d'autres textes, vous mentionnez l'existence, Adel Rifat, dans d'autres textes, Voltaire reconnaît à Mahomet le mérite d'avoir retiré, dit-il, toute l'Asie de l'idolâtrie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? À quel épisode ça correspond ?
Ça me rappelle tout de suite une remarque, enfin une très belle phrase de Jacques Berg, qui disait à peu près ceci : « L'islam m'apparaît comme un système qui, en un moment de lassitude du monde, voulut lui rendre sa jeunesse. » Nous sommes face à deux empires très puissants qui ont dominé cette scène pendant 1000 ans, qui n'ont pas cessé de faire la guerre, qui sont épuisés. Et bon, c'est vrai qu'on ne va pas rentrer dans les détails dogmatiques de la manière dont on... de la manière dont la religion se manifestait dans les deux, mais même à Byzance, nous sommes dans un christianisme très complexe, où on discute, où on se bat et on se fait la guerre pour savoir ce qui, dans Jésus-Christ, est plutôt divin ou humain, et on ne s'entend pas. Nous avons cru comprendre d'ailleurs, et c'est intéressant historiquement, que l'empereur Héraclius, qui était le contemporain de Mohammed, s'est intéressé autant qu'il a pu à ce message extraordinaire, aussi simple, aussi pur, aussi évident. Il y a un Dieu, il y a des prophètes, et puis le Dieu est absolument transcendant.
Mais j'en reviens quand même à la question que je vous posais. En quoi a-t-il aboli l'idolâtrie ? Qu'est-ce qu'on désigne par idolâtrie ? Était-ce les cultes des religions pré-islamiques ? Qu'est-ce que c'est ? De quoi s'agit-il ?
Mais vous savez qu'à l'époque, dans la péninsule arabique, il y avait plusieurs tribus, de nombreuses tribus. Alors chaque tribu avait son dieu. Et son dieu était représenté souvent à la Mecque, à Al-Kaaba, qui est maintenant la mosquée principale des musulmans, par une statue. Quelquefois, c'était une statue d'un homme, d'une femme, ou même une pierre, une simple pierre. Alors c'était ça l'idolâtrie. Et les tribus venaient chaque année à la Mecque pour présenter leur respect à ces dieux-là. Ça, le prophète a vécu cette expérience. Et on raconte que lui, pendant sa jeunesse, ou même son adolescence, et il a répugné à accepter cette religion. Et il a commencé à vivre une autre expérience. Son grand-père était un homme qui cherchait la voie, la vraie voie. On appelait Hanif. Alors, il sortait chaque année, il quittait la Mecque, il allait dans une montagne, il passait un mois là-bas à réfléchir et à chercher. Il n'est pas arrivé à trouver cette voie. Mohammed a suivi la tradition de son grand-père et il sortait chaque année un mois, parce qu'on disait que c'était le mois de Ramadan. Et il passait ce mois à faire le bien, à donner aux pauvres et à réfléchir, à chercher son chemin. À la fin, au bout d'un certain temps, quand il avait l'âge de 40 ans, et la révélation lui est arrivée.
Ce que vous appelez la fin, il faut également l'appeler le début, Bagat el-Nadi. Hein. La fin d'un Mahomet contemplatif, c'est le début de l'islam, littéralement. Gabriel est venu à moi pendant que je dormais. Il tenait une pièce de brocart contenant un écrit et me dit « Lis ». Je dis « Je ne sais lire. Je n'ai jamais lu et ne sais le faire. Je n'écris ni ne lis. » Il me serra très fort au point que je crus la mort venue. Puis il me lâcha et me dit « Lis ». Je dis « Quoi lire ? Je ne vois rien à lire et ne lis ni n'écris. » Je ne parlais ainsi que pour éviter qu'il ne m'inflige une deuxième fois ce qu'il venait de m'infliger. Alors il dit « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillou. Lis, ton Seigneur est le très généreux qui, avec le calame, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Je lus après lui et il finit par me quitter. » Je me réveillais en sursaut. C'était comme si ces paroles avaient été inscrites dans mon cœur. De toutes les créatures de Dieu, aucune ne m'était plus odieuse que le poète ou le possédé. Je ne supportais même pas la vue de l'un ou l'autre. Je me dis, suis-je devenu un poète ou un possédé ? Non, on ne me prendra jamais pour l'un ou l'autre. J'irai plutôt me jeter d'une hauteur. Je me tuerai et je serai délivré. Je sortis dans l'intention de le faire, mais parvenu à mi-chemin, j'entendis une voix venant du ciel qui me disait « Ô Muhammad, tu es le messager de Dieu et je suis Gabriel. » Je levai la tête vers le ciel et vis Gabriel sous la forme d'un homme dont les pieds barraient l'horizon, qui me disait « Ô Muhammad, tu es le messager de Dieu et je suis Gabriel. » Je m'arrêtai pour le regarder, oubliant ce que j'avais résolu de faire, n'avançant ni ne reculant. Puis je tentai de détourner mon visage de lui, mais quelle que fût la direction dans laquelle j'orientai mon regard, je ne cessais de le voir couvrant l'horizon. Alors je demeurai immobile à ma place, sans avancer ni reculer. Et cela pendant si longtemps que Khadija envoya à ma recherche des gens qui allèrent jusqu'à la Mecque et en revinrent, tandis que je demeurais immobile à ma place. Adel Rifat, la révélation faite à la Mecque, ce moment n'est pas un moment unique. C'est-à-dire qu'ensuite, à la suite de ça, le prophète aura plusieurs discussions, si j'ose dire, avec l'ange. Il a cette première vision de l'ange Gabriel, mais jusqu'à sa mort, Mahomet ou Muhammad aura des visions de l'ange lui dictant des versets du Coran.
Oui, bien sûr. Ce qu'il y a dans la scène que vous venez de lire, c'est cette nouveauté radicale de quelque chose qui vient d'ailleurs et qu'il reçoit comme étant un appel de l'absolu qui s'impose à sa conscience et qui ne confond jamais avec sa propre conscience. Alors, l'ange revient...
Il lui faut quand même l'intermédiaire de sa femme pour savoir que c'est un ange et non pas un démon.
Oui, c'est très intéressant parce qu'il y a eu une période de doute, une période de peur. Qu'est-ce qui m'arrive?
C'est Bagat el-Nadi.
Non, c'est pour ça que quand vous dites, c'est une vision. C'est-à-dire, lui, il a vu quelque chose, c'est une vision, mais il ne sait même pas si c'est un ange ou c'est quoi, comme il l'a dit lui-même.
On en parlait lundi dernier, d'ailleurs, avec Leïli Anvar, qui disait que la place essentielle de la femme dans l'islam était née justement du rôle que Khadija avait joué à cette occasion.
Absolument. Mais c'est elle qui était au courant de la religion chrétienne, qui connaissait les anges et les démons, connaissait Dieu, qui est allé voir son cousin Waraqa ibn Nawfal, qui lui a raconté ce que Muhammad venait de voir. Ouais. Et elle lui a demandé son avis. Et l'autre l'a rassuré en lui disant, c'est un ange, ce n'est pas un démon. Alors d'ailleurs, elle-même, elle a essayé de s'en assurer. Et on raconte dans la Sira, c'est-à-dire c'est les compagnons du prophète racontent, ou c'est lui-même qui raconte, qu'elle lui a dit, si quand tu vois cet ange ou cette vision, dis-moi. Alors quand Gabriel est arrivé une fois, il a dit à Khadija, Muhammad a dit à Khadija, voilà. Alors on raconte la scène et elle l'a mis sur sa cuisse gauche, sa cuisse droite.
Hein. Puis dans sa chemise, comme on dit pudiquement.
Exactement. Voilà. Et après, elle lui a dit non, c'est un ange.
Car les anges ne vont pas entre le mari et la femme dans la chemise, comme on dit. Adel Rifat, Bagat El Nadi, derrière cette question de savoir si c'est un ange ou un démon, se pose la question de savoir si au fond la parole qu'il a entendue est une parole arbitraire ou folle, ou bien une parole de vérité, car c'est quand même une parole reçue d'un ailleurs qui, si c'est un ange, n'est pas discutable. Si c'est un démon, alors c'est un signe de folie, de possession. Comment en vient-il à distinguer finalement ces deux éléments ? Comment, au nom de quelle grâce, de quel mérite, finit-il par accorder toute sa confiance à cette parole dont il commence par douter ?
Oui. On vous rassure tout de suite, c'est un moment qui est passé. Et puis ensuite, il le recevait avec une certitude absolue, parce que ça s'imposait à lui comme un absolu. C'est ainsi qu'il l'a vécu, après cette période d'hésitation. Et c'est ainsi que, et c'est très important, que tous les gens autour de lui le vivaient, parce qu'il faut le savoir. Il a souvent répété d'ailleurs, moi je suis un mortel, moi je suis faillible, mais la parole qui me vient d'en haut, c'est autre chose. Alors, pour ajouter un détail intéressant aussi à cette image de l'ange, le prophète a parlé d'une autre manière d'être instruit par Dieu, qui était non plus à travers la vision ou la voix de l'ange Gabriel, mais à travers un phénomène qu'il a décrit comme étant un bruit terrible, comme un bruit de cloche, mais énorme, qui l'étourdissait en quelque sorte. Et puis, à ce moment-là, quelque chose se gravait dans son cœur. Et il a insisté dans un hadith très célèbre en disant que c'est sous cette forme-là que le message s'inscrivait de manière indélébile, alors que le message de Gabriel pouvait parfois être relativement oublié ou perturbé. Donc c'est quand même intéressant de voir que c'était à son cœur qu'il s'adressait.
Et une fois que ce message est gravé dans son cœur, on est en 613. Alors, la révélation, c'est 610. Bagat El Nadi.
Je voulais compléter la réponse de Adel à votre question. Comment il a su que c'était Gabriel, que Gabriel était un ange et pas un démon, ou pas l'un de ceux qui a inspiré les poètes arabes? Il y a une autre expérience qu'il a vécue et qu'il a racontée, et qu'il a racontée malgré le conseil de ses compagnons. C'est l'expérience de la remontée au ciel. Lui, Gabriel est venu, il a raconté, il est venu, il l'a pris, il l'a amené à Jérusalem. De Jérusalem, il est monté au ciel. Et il a rencontré Jésus, il a rencontré Moïse, il a rencontré les prophètes là-bas. Alors pour lui, c'était un signe indiscutable. Il a même entendu, on ne sait pas s'il a vu ou pas, mais il a entendu Dieu lui-même lui parler. Alors c'était une preuve indiscutable pour lui que ce qu'il recevait était un message divin et ce n'était pas vraiment l'un des messages de poètes contemporains.
C'est intéressant parce que ça fait penser à Socrate. Socrate ne cesse de dire qu'il a son démon en permanence. Et dans le dialogue intitulé Le Phèdre, il y a des passages sur la mania qui s'empare justement du poète et qui est ambivalente, puisque ça peut être à la fois la possession et en même temps l'inspiration, au sens le plus noble du terme. Et Socrate lui-même reçoit sa parole des muses juste avant de mourir, qui lui intime l'ordre de composer. Et il y a quelque chose dans cette aptitude à l'hétéronomie, paradoxalement. C'est-à-dire que bien souvent, dans les consciences modernes, on fait de l'autonomie, du fait de construire sa propre parole, le signe distinctif de l'individu qui s'empare de son destin. Or, il y a, chez Socrate, dans la trajectoire de Mahomet, mais également avec Pascal, dans son fameux mémorial, de très beaux textes sur l'art, non pas de construire sa propre parole, d'élaborer sa propre loi, d'être l'artisan de sa propre loi, mais au contraire de savoir recevoir une parole venue d'un autre et qui pourtant n'est pas arbitraire, Adel Rifat.
Oui, non, c'est très important, c'est un sujet d'une vastitude extraordinaire. Ce n'est pas par hasard que vous revenez à Socrate. Nous sommes dans cette zone de la conscience où quelque chose doit s'abîmer intérieurement pour que une voix s'impose avec une certitude absolue. Alors évidemment, les preuves, on ne les aura jamais, mais l'important, c'est de vivre cette certitude. Et il faut bien voir que on l'a sous des formes beaucoup plus, comment dire, manifestées dans l'espace et le temps. Chez n'importe quel grand poète, chez n'importe quel grand musicien, n'oublions pas que Mozart parlait parfois de morceaux entiers qui lui venaient, qu'il voyait d'un seul coup, du début jusqu'à la fin, donc en abolissant même le temps qu'il faut pour une partition. Donc, le nombre d'écrivains qui vous disent « les grands moments de ma vie, c'est un moment où je me suis levé, j'écrivais sous la dictée, je n'avais rien à... » Donc, nous sommes vraiment aux limites de ce qui est normal, naturel, etc., et quelque chose qui va au-delà et qui, donc, en l'occurrence, pour un prophète de la dimension de Muhammad, quelque chose qui, en plus, est là pour nous dire, à travers, finalement, l'ensemble des choses qu'il a entendues et du message global, qu'il a transformé la perspective intellectuelle de tous les gens qui l'entouraient, et à partir de ça, donc de l'Arabie, et à partir de ça, de tout ce qu'il a fait, de tout l'empire qu'il a créé. C'est quand même... parce qu'on oublie aujourd'hui, on se dit, le monothéisme, on a toutes les raisons de discuter ce qu'on veut, mais à l'époque, par rapport justement à l'idolâtrie, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'on se déplaçait, on passait d'un monde cassé, un monde où on ne voyait pas plus loin que le bout de son nez, il y avait une tribu, un clan, un ancêtre, et puis c'est tout, il n'y avait même pas d'eschatologie. Brusquement, il les emporte et il leur ouvre un horizon intellectuel prodigieux. Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown. Like a dog without a bone, and actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man
En 613, Mahomet commence à prêcher publiquement les principaux thèmes de la révélation. L'unicité absolue de Dieu, la certitude d'un jugement dernier, la mise à terme du culte voué aux idoles. C'est le début d'une de cette nouvelle religion monothéiste dénommée Islam, ou soumission à Dieu, et la rupture avec les croyances mécoises antérieures, polythéistes, et liées à un imaginaire tribal et nomade, sans notion de responsabilité personnelle, mais plutôt de solidarité clanique. Girl, you gotta love your man. Girl, you gotta love your man. Take him by the hand. Make him understand. The world on you depends. Our life will never end. Gotta love your man. En 615, confrontés à l'hostilité, voire rejetés par la plupart des Mécois, plusieurs dizaines d'adeptes s'en vont en Abyssinie, suivis de Mahomet qui partira en secret en 622 et rejoindra Yathrib. Cette date clé La seule sur laquelle s'accordent les musulmans et spécialistes marque le début de l'ère islamique, c'est l'égire, ou expatriation, ou émigration. Yathrib est le théâtre de luttes de clans incessantes qui sont en attente d'un prophète capable d'établir un pouvoir stable et unifié, avec une vision justement unifiée du monde et de l'au-delà. Adel Rifat, Bagat El Nadi, c'est-à-dire Mahmoud Hussein, sont les invités des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce mercredi pour nous raconter la vie du prophète. Alors c'est le début des guerres, l'instant où l'on se trouve, hein, le moment où il s'agit d'établir un pouvoir unifié, ça ne se fait pas sans difficulté. Il y a le rejet de ses idées, la déception devant ses révélations et surtout, l'absence de miracles. Voilà un prophète qui n'est pas capable de faire des miracles. Il va falloir mettre sur pied la première cité musulmane et puis mener l'affrontement avec la Mecque, Bagat El Nadi. Adel Rifat.
Je voulais juste revenir sur la définition de l'islam comme soumission à Dieu. Ouais. C'est un mot qu'on a utilisé d'ailleurs, mais depuis, on a cherché autre chose et on a trouvé un mot rare mais qu'on aime bien. Plutôt abandonnement à Dieu.
Abandonnement à Dieu.
C'est l'acte de s'en remettre à lui, mais ça n'abolit pas.
Donc ça n'est pas de la soumission, c'est un acte de confiance.
C'est ça. Et oui. Je crois que c'est très important de voir, on peut en parler avec d'autres détails, mais ça souligne aussi quelque chose d'autre qui est au cœur même de l'islam des tout premiers temps, et qui est que Dieu a investi chacun, chaque homme et chaque femme d'ailleurs au même titre, d'une conscience personnelle, d'une responsabilité personnelle, à partir de laquelle chacun d'eux va devoir rendre des comptes au jour du jugement. Donc nous sommes avec un horizon qui s'ouvre pour chacun, une intériorité, une subjectivité, et donc ce sens de la responsabilité qui fait d'ailleurs que Mohammed se trouve devant des gens qui viennent, de plus en plus, qui viendront à lui, qui ne quittent pas nécessairement, enfin qui n'abandonnent pas totalement leur tribu ou leur clan, mais qui viennent accepter une autorité qui leur est supérieure. Et ça, c'est quand même très important de noter que Mohammed se trouve à une période où devant lui, tous les gens, tous ses compagnons au sens large, sont des gens qui ne savent plus où ils sont, qui cherchent leur repère. Et il est, en ce moment, non seulement proche de l'âme même des gens qui l'entourent, mais c'est un contemporain à nous. C'est un individu total. C'est quelqu'un qui se met à la place des autres, qui peut les aider à devenir responsables d'eux-mêmes. C'est absolument prodigieux.
De sorte que la soumission, ou plus exactement l'autorité dont vous parlez, n'est pas coercitive dans la mesure où ceux qui s'y soumettent y consentent, contrairement aux ennemis, c'est-à-dire en l'occurrence les Mécois, Bagat El Nadi.
Oui, vous avez parlé tout à l'heure de Mohammed comme un homme politique.
J'ai bien fait ou pas ?
Très bien. Bon. Très bien. Et non, c'était un homme, un très fin homme politique. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas cherché à l'être. C'est-à-dire, dès le départ, il voulait être le messager de Dieu. Il voulait être, c'est-à-dire, il était le messager de Dieu, il transmettait un message. Il ne voulait pas jouer un rôle politique. Mais à la Mecque, quand il a commencé à demander aux autres de suivre ce chemin, bien, ça ne convenait pas aux chefs mécois. D'abord, parce qu'ils étaient les chefs, et ils ne voyaient pas pourquoi ils allaient abandonner leur autorité à quelqu'un comme Mohammed. Mais deuxièmement, ça détruisait le prestige de la Mecque, à leur avis. Parce que la Mecque, c'était quoi ? C'était Al-Kaaba, c'était l'endroit où il y avait les
idoles.
Les idoles de toutes les tribus.
Et les tribus arabes venaient vers ces idoles. Alors, ça donnait du prestige à la Mecque, ça donnait du prestige aux Mécois. Alors, si Mohammed vient détruire ça, c'est en réalité détruire le prestige de la Mecque. Alors, de ce point de vue, ce n'était pas un homme politique.
De fait, il y a quelques batailles fameuses, des victoires de part et d'autre, des héros aussi, hein, de part et d'autre. Et puis, en 630... le prophète entre à la Mecque à la tête de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, issus donc, vous l'avez dit, Adel Rifat, de diverses tribus, sans se voir finalement opposer de résistance. Et c'est là qu'il détruit les idoles, qu'il accomplit ce geste symbolique très fort de détruire les idoles.
Oui, mais ça mérite de s'arrêter un instant sur le sens des guerres à cette époque. Mm-hmm. Surtout quand on a à l'esprit, en Occident, que l'image du prophète, c'est plutôt Jésus-Christ, on se dit, mais comment un prophète qui fait la guerre? À cette époque...
Voilà. Excuse-moi, Adel, Bagat. Je reviens à cette idée. C'est que je voulais dire que ce n'était pas un homme politique, mais il est devenu un homme politique.
Oui, c'est ça,
bien sûr. Oui, c'est-à-dire qu'il a été obligé de devenir un homme politique quand il a quitté la Mecque. Il a été obligé de quitter la Mecque. Il est allé à Yathrib, il s'est installé là-bas avec ses compagnons. Et là, il s'est vu imposer le rôle de chef, d'une communauté, et d'une communauté très hétérogène. Alors ici... Il a été obligé de jouer le rôle d'un homme politique, d'un chef d'État.
Et ce qui est prodigieux, c'est qu'il l'est devenu. C'est cette espèce de plasticité incroyable qui fait qu'il est devenu un autre homme. Alors, on pourrait le raconter sur le mode du western à l'époque d'aujourd'hui. Bon, pour en revenir donc à votre question, qu'est-ce que la guerre à cette époque? Encore une fois, donc, on revient à ce désert désolé où il y a très peu de moyens de vivre ou même de survivre, où on se bat sur un puits, sur deux gazelles, sur trois chameaux. Voilà un peu l'histoire avant le prophète. À partir de ce moment-là, il faut bien savoir que pour survivre, les gens recouraient en général à la razzia. C'était ce qu'on appelait les expéditions.
Les razzias, donc.
Voilà. Il y avait des caravanes qui passaient, on les guettait, et on se battait, on gagnait ou on perdait. Bon. Ça, c'était un peu l'ambiance en général. Et sur ce terreau, les clans s'alliaient les uns aux autres, quittaient une alliance pour une autre, changeaient d'alliance. Bon, c'était comme ça que ça se passait, et on s'entretuait gaiement. À partir du moment où une nouvelle communauté se crée, et des gens arrivent de plus en plus à Yathrib, il se trouve qu'il y a, d'une part, un problème de survie à assumer, même au sens économique, mais d'un autre côté, il y aura la Mecque qui ne cessera pas de créer des coalitions de plus en plus vastes pendant au moins quelques années pour essayer de casser ce nouveau pouvoir, puisque c'est une autre ville qui est en train de prendre le prestige qu'elle aurait pu prendre. D'ailleurs, juste pour extrapoler ensuite, les gens les plus intelligents à la Mecque comprendront à partir d'un certain seuil qu'il vaut mieux plutôt s'ouvrir à cette nouvelle religion pour retrouver le prestige de cette religion à la Mecque en acceptant les sacrifices qu'il faut.
De sorte que bien des gens se sont convertis à cette nouvelle religion par pragmatisme.
Absolument.
Plus que par illumination
ou révélation.
Il y a même
des personnages tout à fait passionnants. Comme par exemple Abou Soufiane, qui était un peu le chef de guerre de la Mecque, qui a été donc l'ennemi du prophète, qui a conduit trois guerres contre lui, mais sans jamais être un ennemi barricadant toutes les portes, laissant des portes entrouvertes. Et puis finalement, au moment de la trêve, la fameuse trêve d'Al-Hudaybiyah, au moment où le prophète a montré qu'il n'était plus expugnable, il commence à lancer des sondes pour essayer de voir si on pouvait s'arranger. Et en fait, au moment où le prophète arrive, c'est un moment extraordinairement puissant et beau. On dit la guerre, d'accord. Mais il est important qu'au moment où le prophète avait 10 000 hommes qui venaient de partout, qui étaient prêts à se battre, il les appelait en leur disant « Venez ». Ils ne savaient même pas où ils allaient. Il faut voir cette puissance-là. Ils arrivent et puis, en fait, il les amène vers la Mecque. Et Abou Soufiane, dont nous parlons, est là avec l'oncle du prophète. Et ils se disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Il va entrer à la Mecque, mais ça va être un carnage. Le message a été lancé. Allez leur dire, ne résistez pas. Et quand il est entré, non seulement il n'y a pas eu de carnage, il a demandé à Dieu de pardonner à tous ceux qu'il avait combattus. Alors tous les gens ont fait la queue ensuite pour embrasser l'islam entre ses mains. Donc il faut bien montrer qu'il a fait la guerre quand il a dû la faire. Mais ce n'est pas ça qui détermine le personnage. Il faut vraiment voir ça.
En revanche, son contemporain, trois phénomènes. Le phénomène guerrier, la construction d'un État et la découverte d'une religion. Est-ce qu'on peut dire ça, Bagat El Nadi? Est-ce qu'on peut considérer que ces trois phénomènes sont quasiment simultanés dans l'histoire du 7e siècle?
À condition de ne pas insister trop sur le mot État. Parce que le mot État, c'est un grand...
Bagat El Nadi.
Oui, mais on peut le dire, mais ce n'était pas conscient. C'est-à-dire que ce n'était pas un projet. chez Mohammed. Parce que les gens lui prêtent cette interprétation de la situation. Il croit qu'il est venu, il a fait ça. C'est comme Napoléon, comme Jules César.
Napoléon avait toute l'admiration qu'il faut avoir, d'ailleurs pour, pour le prophète. Hein. S'insurgeant même contre le texte de la pièce de Voltaire.
Ouais. Non, c'est...
Depuis l'exil.
Non, c'est juste pour dire que ce n'était pas un calcul, une espèce de plan de carrière, quoi, comme on le voudrait.
C'est-à-dire, Mohammed est venu comme un simple messager de Dieu. Il a essayé, quand il était à la Mecque, de convaincre les Mécois d'abandonner leurs idoles. Mais il n'a pas réussi. Bon, il a conçu le projet d'immigrer à Yathrib. Ça, c'était une étape. Mais ce n'était pas un projet, ce n'était pas une étape dans un projet.
Il a laissé venir les
choses. C'est-à-dire, il est parti parce qu'il est devenu désespéré.
Alors, moi, excuse-moi, parce que c'est très important. Quand on veut le comprendre au cours de cette période, il était possédé par une idée. Dieu lui a dit, tu seras mon dernier messager. J'ai envoyé beaucoup de messagers, j'ai envoyé beaucoup de prophètes, c'est la dernière fois, les hommes m'ont trop souvent oublié. Tu peux sauver l'humanité, mais le temps est compté. Le jugement dernier est proche, parce qu'il faut bien aussi se remettre dans cette période. Il y a de nombreux textes où on voit bien que le temps lui est compté. Donc, à partir du moment où on voit qu'il est là avec cette obsession de sauver non seulement les Arabes comme un premier temps, mais l'ensemble de l'humanité, on comprend tout. On comprend tout, y compris de faire la guerre quand il le faut.
Ils disent... Pourquoi ne lui est-il pas venu un signe de son Seigneur ? Dit, Dieu peut faire venir un signe, mais la plupart ne le savent pas. Pas une bête sur terre, pas un oiseau volant de ses ailes qui ne forme des nations comme vous. Nous les avons tous inscrits, et ils seront rassemblés vers leur Seigneur. Ceux qui nient nos signes sont des sourds-muets dans les ténèbres. Dieu égare qui il veut et met dans le droit chemin qui il veut. Ça, c'est le Coran, c'est la sixième sourate du Coran, les versets 36-38. On est ensemble, Mahmoud Hussein, aujourd'hui pour parler de la vie du prophète. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que les contemporains de Mahomet, on lit que les contemporains de Mahomet sont constamment en attente de signes qu'il est incapable de fournir, de miracles. C'est un autre parallèle possible d'ailleurs avec Pascal, 1000 ans plus tard. Pascal continuera de dire, en un sens, fidèle en cela, à une parole qu'il ignore peut-être, dire que on ne cherche Dieu que si on l'a déjà trouvé, et que le miracle est inutile. D'abord il est impossible et ensuite il est inutile. Enfin impossible, nul ne le sait. En tout cas il est inutile. Mahomet n'accomplit aucun miracle. Et pourtant, il dit ceci, je ne connais pas l'invisible et je ne dis pas non plus que je suis un ange. Voilà un homme qui, sans se présenter comme miraculeux, contrairement au Christ, parvient à fédérer autant de conscience autour de lui. Comment comprendre cela? Est-ce tout simplement l'effet de son charisme, selon vous, Bagat el-Nadi?
D'abord, il faut revenir au problème du miracle. Il avait un argument très fort, lui. Il leur a dit, oh, mais quoi? À quoi ça sert un miracle? Ça sert à réveiller un mort ou amener ou guérir un malade. Mais voilà le Christ, Jésus, qui a fait ça et il a fini sur la croix. Ça n'a convaincu personne. Moïse a été abandonné par son peuple. Moi, mon miracle, c'est le Coran. C'est la parole de Dieu. Je vous appelle au chemin droit. Si vous acceptez, vous irez au paradis. Si vous n'acceptez pas, c'est votre problème. Alors, c'était un argument comme un autre. Hein. C'est pour les Mécois. D'ailleurs.
Mais il l'a dit dans une langue incroyable. Parce que quand on parle du miracle du Coran, ce n'est pas au sens des significations qui s'enchaînent, qui s'emboîtent ou qui se contredisent. Ce n'est pas du tout ça. C'est une langue sur laquelle on a écrit des bibliothèques entières, mais qui, à l'époque, était à la fois poétique et non versifié, donc il se distinguait des poètes, qui, eux, pouvaient dire ce qu'ils voulaient, et qui avait cette fulgurance, cette force qui fait qu'il y a des centaines d'événements qu'on raconte dans la Sira où les gens l'entendaient et croyaient. C'est comme ça que ça s'est passé.
C'est exactement d'abord. Le problème. C'est un problème de croyance. Ce n'est pas un problème de logique. C'est, on ne peut pas discuter la religion. Et lui, c'était son point de vue. Je suis venu, j'ai reçu un message, je vous transmets ce message.
Est-ce que l'enseignement qui était le sien, la transmission du message qui était le sien, cette façon qu'il avait de transmettre son message, plaide, comment l'interpréter au fond ? Est-ce qu'il faut lire cette transmission dans le sens d'une invitation à une lecture littérale de la parole de Dieu, ou bien d'une invitation, de l'invitation qui serait faite à chacun d'interpréter la parole de Dieu selon la loi de son cœur, Adèle Rifat ?
Là, c'est une question en or que vous nous passez. Parce que...
D'autant que c'est la question qu'on reposera vendredi, Abdelwahab, mesdames, allez-y.
Absolument. Absolument. Nous insistons beaucoup sur le fait que entrer dans la vie du prophète, suivre cette formidable trajectoire, c'est comprendre aussi le rapport qu'il y avait non seulement entre lui et ses compagnons, mais entre lui, ses compagnons et Dieu. Ce qui apparaît, mais avec une évidence éclatante, c'est que Dieu ne fait pas un monologue face à Mohammed. Il instruit un dialogue. Il y a des centaines de versets où on voit bien que Dieu vient répondre à une demande, à une attente, à une question posée par le prophète, et souvent des questions inspirées au prophète par les compagnons eux-mêmes. Il y avait cette extraordinaire proximité, parfois même on pourrait dire familiarité, entre les vivants et le Dieu qui les inspirait. Et donc, il y a eu des moments, non seulement où c'est les croyants obéissaient à la parole de Dieu, ça va de soi, telle qu'elle aurait été transmise par le prophète, mais ça ne les empêchait pas du tout, et il y a des dizaines de moments où il vient dire au prophète, mais on ne peut pas, Dieu nous demande trop. Et très souvent, Dieu intervenait pour alléger tel ou tel des...
Donc, ces allègements, justement, comme vous dites, sont-ils la justification aujourd'hui d'une lecture séculière du Coran, d'une herméneutique permanente du Coran ? J'allais dire, pardonnez-moi, mais j'ai envie de parler d'une lecture talmudique du Coran.
Non, mais attendez, talmudique ne veut pas dire séculière. Et c'est très important, cette différence. Parce que nous, vous allez recevoir Abdelwahab Meddeg, vendredi, qui a une thèse très intéressante. Mais nous posons le problème décalé par rapport à lui. Nous disons, nous restons dans l'univers du croyant. Nous restons dans l'univers de celui qui croit que cette parole est la parole de Dieu. Et pour qui il va de soi que l'exemple du prophète et l'expérience qu'il a vécue inspire chacun tout le temps. Or, cette expérience nous montre qu'il y avait débat, qu'il y avait discussion, et c'est d'autant plus évident quand on lit la vie du prophète, et donc de ses compagnons, qu'il les transformait, il les mettait devant de nouvelles responsabilités. C'est pour se hausser à la hauteur de ces responsabilités, on ne peut pas être de simples suivants. Il faut discuter et il faut appeler.
Bagatelle Nadia, à vous le mot de la
fin. Oui, non, je crois que là, nous avons vécu avec le prophète pendant des années, avec le prophète, ses compagnons, en écrivant le livre sur la Sira, sur le Coran. Nous sommes arrivés à la conclusion que pour le prophète lui-même, il y avait deux choses essentielles. Il y avait la reconnaissance de l'unicité de Dieu, que Mohammed est son messager. Ça, c'était les deux principaux points. À part ça, tout est sujet à interprétation.
Seht den Felsen, voll Freude, hell. Seht den Felsen, voll Freude, hell. Wie ein Sternenblick, wie ein Sternenblick. Wolken ernten seine Jugend.
Un lied de Schubert, Mahomet, pour baryton. Pour terminer cette émission, votre compagnie Mahmoud Hussein. Alors, je rappelle donc Al-Sirah en deux volumes, le prophète de l'islam raconté par ses compagnons. Ça se lit comme un roman, comme un merveilleux roman. C'est paru chez Grasset et c'est vraiment formidable. h 50 sur France Culture, c'est l'heure de retrouver notre Adèle, l'autre Adèle, Adèle Van Rett et le journal des Nouveaux Chemins. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël.
Là, on va passer du prédicateur au grand professeur.
Et oui, au grand professeur Alain Émile Chartier de son vrai nom, philosophe français qui est peu enseigné, dont on parle peu en général, mais qui fait l'objet d'un petit essai très pédagogique qui sort en ce moment aux éditions Ellipse dans la collection Apprendre à philosopher avec. Et donc cet essai s'intitule évidemment Apprendre à philosopher avec Alain. Et l'auteur de ce livre, le philosophe Baptiste Jacomino, va nous montrer aujourd'hui que le titre de cette collection est particulièrement approprié dans le cas d'Alain. C'est ce qu'on va voir. Bonjour Baptiste Jacomino.
Bonjour.
Alors je disais que le titre, donc Apprendre à philosopher avec Alain, était approprié en particulier dans le cas d'Alain, puisque Alain lui-même, dans ses travaux, s'interroge beaucoup sur l'origine de la pensée, la constitution de la pensée, ce qui oppose la pensée aux passions ou aux humeurs. Et vous-même, vous allez jusqu'à dire dans votre introduction, Baptiste Jacomino, qu'apprendre à penser est la problématique centrale de l'œuvre d'Alain.
Oui, absolument. Il me semble qu'apprendre à penser est au cœur de la pensée d'Alain parce que son geste philosophique, si on devait le résumer, me semble être qu'il convient de partir d'en bas pour s'élever à partir de ce qui est le plus bas, en le travaillant, en le redressant, de façon à se libérer et à apprendre à penser, ce qui, chez Alain, est tout à la fois. C'est-à-dire qu'apprendre à penser, c'est apprendre à vouloir, c'est apprendre à être heureux. Et apprendre à penser, c'est surtout d'abord se libérer des hérédités multiples qui pèsent sur nous, humeur, passion, non pas en s'en affranchissant radicalement par un geste brusque, par un abandon brutal, mais plutôt en les travaillant, en se redressant et en faisant de l'élan de la passion un mouvement, une force qui va permettre de, par la gymnastique, de se travailler, de se domestiquer soi-même et ainsi de passer du cri à la voix, de l'humeur à la création artistique ou du coup de foudre à l'amour véritable.
Tout ce que vous dites là se retrouve dans un des chapitres que vous avez écrit dans ce livre. Donc, le livre s'organise en thèmes. Vous faites un chapitre sur l'art, la géométrie, l'erreur, le bonheur, l'école, la guerre, etc. Et dans le chapitre sur le bonheur, on a l'impression que le chapitre sur le bonheur, que le thème du bonheur concentre toute la pensée d'Alain. Puisque vous expliquez que le bonheur, pour Alain, est une affaire de volonté, c'est une affaire d'action. Et qui suppose la même maîtrise du corps dont vous parlez, qui suppose cette gymnastique, en fait.
Absolument. Alain ne cesse de répéter, comme il le dit sur de nombreux autres sujets, que le bonheur n'est pas un objet dans une vitrine, qui serait loin de nous et qu'il faudrait atteindre. Mais bien au contraire, il convient de partir de la passion qui est au départ, de la travailler. Et c'est seulement ainsi qu'on parviendra à un bonheur qu'on ne peut pas imaginer à l'avance, qu'on ne doit pas voir comme une vision. Et de la même façon, ce paradigme, on peut le retrouver dans ces nombreux thèmes que vous citez. Par exemple, l'artiste n'est pas non plus celui qui a une vision a priori et qui devrait ensuite simplement la mettre en forme, mais il est plutôt celui qui, au cours de son travail, retravaille sans cesse, revient sans cesse sur une idée très vague qu'il a au départ et qui ainsi parvient à l'œuvre d'art finale. Donc il y a une sorte de correspondance entre l'art et le bonheur ou entre l'art et l'éducation et le bonheur et l'éducation.
Donc là, une fois de plus, on est dans l'exercice, dans l'apprentissage de la pensée. Et Alain écrit lui-même que c'est dans l'apprentissage en fait qu'est le plus grand bonheur. Il dit de quelqu'un qui n'aurait rien à aller chercher, qui n'aurait pas de désir, qui n'aurait rien à faire. Il parle d'un roi ou d'un dieu. Et cette personne-là ne pourrait pas être heureuse.
Oui, absolument. Et c'est pour ça que je crois que l'on peut dire que la philosophie de l'éducation est au cœur de la philosophie d'Alain.
Est-ce qu'il a écrit directement sur l'éducation?
Oui, absolument. Ses propos sur l'éducation sont une de ses œuvres les plus riches, même s'il le regardait lui-même avec un certain regard critique. C'est un recueil de propos très, très intéressant dans lequel on retrouve tous ces thèmes mêlés. Et dans cette philosophie de l'éducation, on voit comment Alain propose pour l'enfant, mais ça pourrait aussi bien s'appliquer à l'adulte, une forme de dressage noble de soi, pour reprendre une expression qu'on retrouve chez Kant, un dressage noble de soi qui est un dressage humanisant par la mécanique des exercices, par la mécanique de la gymnastique, qui pourrait être celle aussi de l'escrime ou celle du violon. On se rend maître de soi parce qu'on s'affranchit de passions qui, le reste du temps, nous hantent, nous agitent, bouillonnent en nous. Et c'est seulement par ce dressage que l'on se libère et que l'on parvient aussi bien à la pensée qu'au bonheur, comme on disait tout à l'heure.
Et lui-même a sans doute mis ça en pratique, puisque c'était lui-même un grand professeur. Vous décrivez dans votre introduction le dernier cours qu'il donne le 1er juillet 1933, où tout le monde est là pour le saluer, et ses élèves l'appelaient l'homme avec un grand H.
Oui, absolument. Et de ce point de vue-là, il retrouvait celui qui avait été son maître avant, qui était l'agneau, qu'on appelait aussi du même nom. Et Alain a laissé derrière lui une à la fois une histoire et une légende qui sont toujours vivantes aujourd'hui et dont l'association des amis d'Alain porte l'héritage. Il reste une grande figure comme ça dont on rapporte les mots dits en classe parce que c'est un professeur qui est resté très très marquant à l'aube de l'enseignement de la philosophie tel qu'on le conçoit aujourd'hui pendant l'entre-deux-guerres au lycée Henri IV.
Donc vous avez dit que Alain avait constitué une véritable philosophie de l'éducation, mais il semble que cette philosophie de l'éducation ne soit pas tant tirée de sa pratique que basée finalement sur l'héritage de certains philosophes.
Oui,
Alain a beaucoup lu des philosophes tels que Platon, Descartes, Spinoza, Auguste Comte aussi.
Oui, absolument. Il tire beaucoup d'Auguste Comte, d'Hegel essentiellement, pour l'idée qui, de ce point de vue-là, annonce aussi Arendt, selon laquelle il faut apprendre à l'enfant à s'élever, que l'enfant aspire avant tout à s'élever et non à demeurer dans l'enfance, idée qu'on trouvait déjà chez Hegel. Et il s'inspire de plusieurs philosophes. Ceci dit, il s'inspire aussi, me semble-t-il, dans une certaine mesure, de l'expérience qu'il a connue comme élève dans l'enseignement secondaire à la fin du 19e siècle, un enseignement qui portait encore une part de mécanique essentiellement consacrée aux humanités et à la géométrie, et lui-même prônera un enseignement essentiellement consacré à ces deux domaines-là. Il dit ça suffit pour l'enseignement primaire, les lettres et la géométrie sont d'abord un enseignement suffisant et nécessaire, plutôt que de se répandre comme le prônaient certains partisans de la science de l'éducation au début du siècle, plutôt que de se répandre par exemple dans les sciences expérimentales qui d'emblée, d'après lui, ne peuvent pas être comprises. On ne peut pas plonger l'enfant dans les apparences parce que les apparences sont d'abord trop confuses. Il faut avoir fait un détour par la géométrie et s'être dressé soi-même par les exercices pour parvenir à une véritable éducation de la pensée.
Et donc Alain est un grand homme, est un grand professeur, mais c'est aussi un intellectuel et sans doute le premier intellectuel, c'est-à-dire le premier universitaire qui s'engage véritablement avant tous ceux qui le suivront ensuite. Merci beaucoup Baptiste Giacomino. Le titre de ce livre, c'est donc « Apprendre à philosopher avec Alain » et on trouve ça aux éditions Ellipse.
Oui, merci à tous et merci, c'était magnifique ça, Alain. Il y aurait beaucoup à dire, pardon, j'en bafouille sur Alain intellectuel, c'est dommage, c'est trop court. Vous vouliez nous parler également ?
Et ben pour compléter ou agrémenter cette semaine sur l'islam, vous pouvez vous rendre au théâtre de l'Odéon jusqu'à vendredi pour goûter au printemps arabe. Ce soir et demain soir à 18h30, vous pourrez écouter des lectures en arabe et en français sur le thème le poème « Terre de la langue arabe » et c'est le metteur en scène Wissam Arbache qui a choisi les textes et qui vous propose d'entendre dans le bruit de la langue arabe l'étroitesse du lien de l'homme et de son poème. Et vendredi 7 mai, c'est une rencontre avec le poète Mahmoud Darwish qui aura lieu à 20h avec entre autres le réalisateur palestinien Nasri Ajaj dont le film, comme le dit le poète, sera projeté en avant-première à l'issue de la rencontre. Voilà, c'est donc la deuxième édition du Printemps arabe à l'Odéon autour de la poésie arabe. Toute cette semaine, et évidemment, toutes les informations sur ce Printemps arabe à l'Odéon sont en ligne sur le site des Nouveaux Chemins.
Mahmoud Darwish, dont on entendra d'ailleurs un poème magnifique demain en fin d'émission, la fin de l'émission qu'on consacrera à l'islam et la démocratie, en compagnie de Makram Abbès. Voilà, de Mahomet à Alain, c'était la félicité du jour. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur Internet, à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance, où vous attendent le téléchargement des émissions de la semaine, l'écoute en ligne des émissions du mois et une bibliographie aussi complète que possible. Un grand merci à Mathieu Marie pour la lecture du texte du Mahomet de Voltaire et merci aussi un merci tout particulier à Géraldine Mosna-Savoie pour un travail préparatoire, je dois dire, exemplaire sur la vie du prophète. On se retrouve demain, donc, comme tous les jours, de 10h à 11h pour la suite de cette semaine sur l'islam. Je vous l'ai dit, demain, c'est l'universitaire Makram Abbès qui vous racontera l'histoire des rapports complexes entre l'islam et la démocratie. 10h59 sur France Culture. Dans un instant, question d'époque.